Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité. Donc en Australie pour aujourd'hui, tout d'abord la campagne électorale qui continue donc dans le pays. Le Premier ministre Scott Morrison qui répond aux affirmations selon lesquelles la Chine aurait fait une annonce d'accord avec les îles Salomon qui serait peut-être une forme d'ingérence électorale. On va en parler. Et puis la situation en Ukraine également. Les Russes qui reconnaissent avoir bombardé certaines parties de Kiev, la capitale. Début de ce journal avec la campagne électorale donc en Australie qui continue. Je vous rappelle que vous serez appelé à voter si vous êtes australien le 21 mai. Le Premier ministre Scott Morrison défend une décision d'introduire une réduction de 10 dollars sur les médicaments et ce l'année prochaine plutôt que dans le budget récemment dévoilé. Si elle est réélue, la coalition promet de réduire donc le coût de tous les médicaments répertoriés sur le régime des prestations pharmaceutiques pour les maladies et les affections chroniques. Cela verrait le prix minimum de médicaments, donc PBS, passé de 42,50 à 32,50. Et pour Scott Morrison, c'est un changement important pour l'avenir et qui permettra aux patients donc d'économiser, si on fait les mathématiques, 120 $ par an.
There are many things you can't control. You can't control the war in Europe. You can't control natural disasters. You can't control whether there's a pandemic or not. All of these things impacting on the prices Australians are paying every day. But what you can do is what we're doing. You can provide that relief. As we did in the budget, you can make the safety net more generous to help people who are on these medications, and you can reduce this non-concessional payment down by $10 on every single script.
Voilà, donc le Premier ministre Scott Morrison, d'ailleurs, il a été également invité à clarifier les commentaires du ministre de l'Intérieur qui a accusé ouvertement la Chine d'ingérence électorale. Karen Andrews a suggéré que la Chine avait programmé son annonce de l'accord avec les îles Salomon pour s'aligner avec la campagne électorale en Australie. Et pour Scott Morrison, que l'on écoute une nouvelle fois, l'Australie a mis en place toutes les protections de sauvegarde. On l'écoute.
We're very aware of the influence the Chinese government seeks to have in this country. We in fact introduced laws to prevent it. So any suggestion that the Chinese government doesn't seek to interfere in Australia, well, we didn't put that legislation in for no reason. We put it in there to ensure that Australians' security could be safeguarded from foreign influence in our own country.
Voilà, donc le Premier ministre Scott Morrison. Cela survient alors que le Premier ministre des îles Salomon, Manashe Sogovare, a accusé l'Australie tout simplement d'hypocrisie. Il dit n'avoir entendu, quant à lui, parler que du pacte AUKUS, que l'on connaît très bien en France avec l'histoire des sous-marins. Mais le Premier ministre donc, des îles Salomon dit qu'il a entendu parler de ce pacte AUKUS que par les médias. On l'écoute.
I learnt of the AUKUS treaty in the media, Mr. Speaker. One would expect that as a member of the Pacific family, Solomon Islands or members of the Pacific should have been consulted to ensure that this AUKUS treaty is transparent, since it will affect the Pacific family by allowing nuclear submarine in Pacific waters.
13h05. On va parler maintenant de la guerre en Russie, la guerre en Ukraine avec la Russie. Cela ne fait aucun doute. L'armée russe a donc bel et bien bombardé la capitale ukrainienne lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cela a été confirmé par les autorités russes. On écoute par ailleurs la réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Clearing the debris continues in Kyiv, where Russian missiles hit yesterday during the visit of the UN Secretary General. It is unfortunate that such a deliberate and brutal humiliation of the United Nations by Russia has left without a powerful response.
Les propos traduits donc du Premier ministre, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et sur le terrain à Mariupol, le destin de ces soldats et ces civils retranchés sous une usine principale donc de la ville, retranchés alors que les troupes russes avancent inexorablement sur la ville. Une opération humanitaire pourrait être organisée pour les sauver, mais ça met encore un peu plus en lumière la complexité pour les civils de quitter les zones de combat, comme ce témoignage de Mikhail. Il est réfugié, il était réfugié dans la ville d'Enaradora et il était au micro de RFI.
La ville d'Enerhodar a été occupée depuis le début de la guerre. On a donc vécu sous occupation. Ce n'était pas facile. On a vu les produits disparaître dans les magasins. On manquait d'essence. Mais je crois que la chose la plus terrible, ça a été de voir cette armée russe dans la ville. La façon dont ils marchaient dans la rue avec leurs armes et ce sentiment qui se dégageait d'eux de se sentir à la maison. Au final, on a trouvé un moyen de quitter Enerhodar, de sortir de tout ça, et on a pu fuir la zone sous occupation. La route n'était pas si sûre que ça, il y avait encore des bombardements, des mines, mais moi je ne devais pas montrer ma peur parce qu'il fallait à tout prix quitter cette région sous occupation avec ma femme, et au final on a réussi à le faire.
Voilà, donc les propos traduits donc de Mihaïla, réfugié, qui est maintenant dans la capitale Kiev. Cette annonce maintenant, celle du président indonésien Joko Widodo. Il présidera la prochaine édition du G20 et il souhaite inviter Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky à la table des discussions. Une Indonésie qui souffle le chaud et le froid diplomatiquement, et c'est pas nouveau, Vincent Sourio.
Surtout ne brusquez personne, c'est un grand classique de la diplomatie indonésienne qui revendique son non-alignement depuis les années 1950. À l'époque de la guerre froide, il n'était déjà pas question pour Jakarta de trancher entre l'Occident et la Russie. 70 ans plus tard, le président indonésien ne veut toujours pas choisir et malgré les pressions occidentales, il invite à la fois Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky au motif que le sommet du G20 doit, dit-il, rester apolitique. Très risqué car il y a peu de chances que Joe Biden, Emmanuel Macron ou Boris Johnson s'affiche dans la même pièce que le patron du Kremlin, accusé de crimes de guerre et mis au ban de la communauté internationale. Dès les premiers jours du conflit en Ukraine, l'Indonésie avait certes condamné l'invasion russe, mais elle avait prévenu qu'elle ne sanctionnerait pas Moscou, trop risqué compte tenu des liens économiques entre les deux pays. Les Indonésiens ont besoin du pétrole russe pour maintenir leur économie à flot. Ils veillent aussi à ne pas fâcher la Chine, la superpuissance régionale, qui suit l'avancement du dossier ukrainien en silence. L'exercice d'équilibrisme de l'Indonésie devrait trouver son épilogue au mois de mai avec la visite à Washington du président indonésien dans le cadre du sommet entre les États-Unis et l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est.
Et c'était Vincent Sourio pour RFI. Alors vous en doutez, les Américains ne sont pas satisfaits par cette situation. Ils ne sont pas satisfaits par donc l'offre du président indonésien Joko Widodo. On écoute les explications de Stéphanie Schuller.
On ne peut pas faire comme si de rien n'était, a estimé le département d'État américain ce vendredi. Pas de réponse en revanche à la question d'un journaliste pour savoir si Joe Biden refuserait ou non de se rendre au sommet du G20. La situation de l'administration américaine n'est en effet pas aisée. Après avoir traité Vladimir Poutine de criminel de guerre et accusé la Russie de génocide en Ukraine, comment envisager de retrouver le maître du Kremlin lors du rendez-vous des grandes puissances économiques mondiales? La Maison-Blanche est réaliste, une expulsion de la Russie du G20 est improbable par manque de consensus. Lors d'une réunion des ministres des Finances du G20 en avril, la délégation américaine et plusieurs alliés avaient boycotté certaines réunions pour protester contre la participation des Russes. Les États-Unis pourraient-ils alors décider d'envoyer une délégation de rang inférieur à Bali? Une absence de Joe Biden laisserait toute la place à la Russie et à la Chine. Seul point positif relevé par l'administration américaine, l'invitation par l'Indonésie de Volodymyr Zelensky au sommet en novembre.
Et c'était Stéphanie Schuller pour RFI. Un ancien Marines américain âgé de 22 ans a été tué aux côtés des forces ukrainiennes donc dans cette guerre contre la Russie et c'est probablement le premier mort connu d'un citoyen américain combattant donc sur le terrain en Ukraine. Willie Joseph Cancel a été tué alors qu'il travaillait pour une entreprise militaire qui l'avait envoyé en Ukraine. Il était pompier volontaire à Walden, New York. Il avait un fils de 7 mois. L'attaché de presse donc des États-Unis, Jen Psaki, a déclaré que les Américains devraient totalement éviter de se rendre en Ukraine pour quelque raison qui soit. On l'écoute.
The reports about this individual were that he's a veteran. He had a child, I believe, and certainly sounded like a very passionate young man. We know people want to help, but we do encourage Americans to find other ways to do so rather than traveling to Ukraine to fight there. It is a war zone. It's an active war zone, and we know Americans face significant risks.
Voilà, donc l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Dan Psaki. Dans le reste de l'actualité, il était très critiqué, très contesté au sein de l'Union européenne. Le chef français de Frontex, Fabrice Leggeri, démissionne de son poste. Frontex, c'est l'agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières. Ils sont donc en première ligne sur la crise des migrants. Mais il a été pris dans une tourmente à Rembeng.
Directeur de Frontex depuis 2015, Fabrice Leggeri incarnait la lutte contre l'immigration clandestine dans l'espace Schengen. Régulièrement accusé de tolérer les refoulements illégaux des migrants, il faisait l'objet d'une enquête sur sa gestion de l'agence par l'Office européen de lutte antifraude. Selon le journal Le Point, il lui est reproché notamment de ne pas avoir respecté les procédures, de ne pas s'être montré loyal vis-à-vis de l'Union européenne et d'avoir mis en place un mauvais management au sein de l'agence. Ces dernières années, plusieurs journaux français et internationaux ainsi que des ONG ont également pointé du doigt la gestion du patron de Frontex des arrivées de migrants aux portes de l'Europe. Mercredi dernier, le quotidien Le Monde a publié une enquête décrivant des refoulements de migrants faits sans aucun respect des codes de procédure. Selon le journal français, Frontex a procédé à plusieurs renvois illégaux d'exilés vers la Turquie alors que ces derniers étaient parvenus dans les eaux grecques, ce qui les rend éligibles pour demander l'asile en Grèce.
Et c'était un reportage d'Aram Beng. Allez, pour conclure ce journal, et aux grandes dames de ses fans, Céline Dion a dû reporter une nouvelle fois sa tournée en Europe, officiellement pour des raisons de santé. Edmond Sadaka.
Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser les spectacles une fois de plus.
Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, la star de 53 ans évoque des spasmes musculaires très douloureux, mais elle se veut tout de même rassurante.
La bonne nouvelle, c'est que je me sens quand même un peu mieux. Mais c'est sûr que ça va pas assez vite.
Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de sa tournée avant le début de la pandémie, début 2020. Elle avait ensuite annoncé en janvier dernier qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette série de concerts à cause de ses problèmes de santé. Le spectacle qu'elle devait donner à Paris en septembre prochain dans la gigantesque salle de la Défense Arena a été retardé d'un an. D'ici là, les fans vont devoir prendre leur mal en patience.
Et voilà cette nouvelle. Si vous êtes fan de Céline Dion et que vous pensiez aller voir un concert de Céline Dion en Europe, eh bien ça a été repoussé. 13h13, on va faire un coup d'œil météo à travers le pays pour eux cet après-midi. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 20 degrés. Melbourne, il fera 18. Vous aurez 16 degrés à Hobart, 19 à Canberra. Il fera 24 à Sydney. Il fera 27 à Brisbane, 29 à Cairns. Et comme à chaque fois, la palme du jour reviendra à Darwin et 34 degrés. On l'a vu dans ce journal, les grands titres, la campagne électorale qui continue en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison questionné eh bien, sur ses affirmations selon lesquelles le moment a été choisi par la Chine pour l'annonce de l'accord des îles Salomon qui serait une forme d'ingérence électorale. Et la situation en Ukraine, on l'a vu, les Russes qui reconnaissent avoir bombardé certaines parties de la capitale ukrainienne, Kiev. 13h14, on fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
En ligne et sur votre smartphone.
reportage maintenant dans notre programme et on parle de la crise de l'hôpital pour débuter. La crise de l'hôpital public qui est un sujet qu'Emmanuel Macron ne pourra pas éviter lors de son second quinquennat. Les mesures prises lors de son premier mandat n'ont pas clos le chapitre. Les conditions de travail restent très difficiles. Les soignants continuent de quitter le navire. Des milliers de lits sont fermés faute de personnel. Les postes vacants ne trouvant pas de preneurs. À l'hôpital Saint-Louis à Paris, le service d'immunopathologie manque cruellement d'infirmières de nuit.
C'est un service de pointe spécialisé dans des maladies graves du sang qui est aujourd'hui dans une situation critique. La quasi-totalité des infirmières de nuit ont quitté le service au fil des mois. Les postes restent vacants. Sur les 23 lits de l'unité, 9 ont dû fermer. Le professeur Eric Oxenhandler est le chef de ce service d'immunopathologie clinique à l'hôpital Saint-Louis.
Pour la nuit, on a 12 postes d'infirmières. Il faut tenir compte des jours de repos, etc. Et progressivement, on a vu l'effectif tomber à 1. Donc c'est pour ça que là, on est arrivé à un point de rupture. Ceci ne date pas d'hier. Il y a un an, la situation était déjà comme ça. Et on a pu rester partiellement ouvert grâce, je dirais, au bénévolat de nos infirmières de jour qui ont accepté de faire des nuits pour arriver à maintenir le service ouvert. Mais évidemment, au bout d'un an, c'est plus possible.
Élise, infirmière de jour qui élève seule sa petite fille, est comme ses collègues très attachée au service et aux patients. Elle a prêté main forte 2 mois la nuit.
J'étais très fatiguée, je voyais moins ma fille. Quand on a fait une nuit de 12 heures, on rentre, on se douche, on dort. Et ensuite, on se réveille et on recommence. Donc tout ce qui est loisir, ça passe à l'as. Tout ce qui est vie sociale aussi. Hein. Et par rapport à travailler de jour, on a une augmentation de 9 € brut par nuit. Ce qui, moi, ne me permet pas de faire garder ma fille.
Face au manque d'effectifs de nuit, il a fallu aussi faire appel à des intérimaires, ce qui peut être source de difficultés, relève le docteur Marion Malfette, hématologue.
Les intérimaires, elles n'ont pas l'expertise, elles n'ont pas la formation. C'est un peu la surprise du chef quand elles arrivent. Parfois, elles ne savent pas faire de chimiothérapie, pas de transfusion, ce qui est un vrai problème pour un service d'hématologie. Et il y a aussi le problème de l'équipe, c'est-à-dire que travailler à l'hôpital dans ce genre de service, c'est difficile. C'est important, l'esprit d'équipe, la solidarité pour se donner des conseils. Et plus on les disloque, plus on rend l'exercice difficile.
Et la situation que traverse le service, avec plus d'un tiers de ses lits fermés, n'est pas sans conséquence sur les patients, pointe le professeur Oxenhandler.
On va essayer de faire sortir des patients parfois un peu plus rapidement que prévu, en essayant d'organiser une surveillance à domicile. Mais pour des patients aussi lourds, avec des traitements aussi difficiles, c'est une gymnastique que je peux qualifier parfois de dangereuse.
Et vous, en tant que médecin, en tant que chef de service, comment vous vivez cette situation ?
C'est extrêmement difficile. Moi, je travaille depuis 38 ans à l'hôpital Saint-Louis. Je suis ce qu'on appelle en fin de carrière. Je ne pensais vraiment pas finir ma carrière en voyant ça.
Un des enjeux pour l'hôpital public en France, donner envie d'y travailler et envie d'y rester.
Allez, on va parler maintenant de la crise en Ukraine et depuis l'invasion russe du pays. Environ 10 000 jeunes ont été accueillis et scolarisés en France, dont 4 000 à l'école primaire, des enfants qui ne parlent pas français et qui ont un alphabet cyrillique, un alphabet donc tellement différent de l'alphabet latin. Rencontre avec Anna, petite ukrainienne venue d'Odessa, à l'école primaire Paul Langevin, au Lila, en région parisienne.
Il s'est produit un événement à l'école primaire Paul Langevin, en région parisienne. L'arrivée d'une petite Ukrainienne dans la classe de CP. Ruban dans les cheveux, des yeux vifs de petit écureuil, un sourire qui s'ouvre sur des dents qui poussent, Anna, 6 ans, a quitté la ville d'Odessa et un pays en guerre. Ses camarades et l'enseignante Nelly Ogérias l'ont accueillie chaleureusement.
Moi, j'aime bien les gens qui ont des cheveux blonds. Aussi, j'aime bien Anna.
Qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle est arrivée, Nicolas?
Quand elle était arrivée, elle avait pleuré des fois quand elle est venue.
Nicolas, est-ce que tu as compris pourquoi elle pleurait?
Oui, parce qu'elle voulait sa maman.
La séparation avec sa maman était difficile au départ. Elle pleurait beaucoup le matin. Il faut dire qu'en classe, le principal, c'était pas les apprentissages, c'était vraiment qu'elle se sente bien.
La fillette est arrivée il y a 3 semaines et spontanément, les enfants ont su communiquer entre eux.
On lui fait des signes. On a appris des mots en français à Anna.
On se risque alors à une démonstration en confiant le micro aux écoliers.
Anna dit papa. Anna dit papa.
Je peux essayer.
Anna dit maison.
Anna dit maison.
Des petites choses faciles. On essaye. Est-ce que tu te rappelles ce mot-là quand on a appris à jouer au tennis avec une
croquette.
Oui.
Toutes les méthodes sont bonnes pour apprendre le français. Nelly Ocherias, enseignante.
On voit les lettres de l'alphabet, les sons et des petits mots avec l'aide d'images. L'acquisition du vocabulaire se fait essentiellement par tous les rituels du matin et de l'après-midi, à travers les activités de sport. Elle apprend beaucoup en regardant ce que font les autres.
En ce début d'après-midi, Anna est accompagnée par sa maman. De l'exode, de tout ce qui s'est joué avant, l'équipe enseignante sait peu de choses. Face au déracinement, au traumatisme, l'école peut jouer un rôle de cocon, une parenthèse pour l'enfant.
Les enfants de la classe savent ça aussi, savent que c'est du coup compliqué pour Anna de repartir de zéro. Elle n'a pas voulu être ici en France. On travaille beaucoup en début d'année sur la différence. Et ils le savent, les enfants, que c'est une vraie richesse d'avoir quelqu'un de différent. Je vais la continuer après, promis.
Au moment de partir, un dessin d'Anna nous interpelle. Il s'agit d'un cœur immense, colorié en rouge. La petite Ukrainienne a souhaité qu'on l'affiche sur la porte.
Allez, on reste à Paris maintenant et on va parler de littérature. Après 39 éditions et 2 annulations, en raison de, bien entendu, de la pandémie du Covid-19, le Salon du Livre de Paris à la Porte de Versailles a un nouveau nom et un nouveau lieu. Le premier festival du livre de Paris s'est tenu face à la Tour Eiffel dans le Grand Palais éphémère.
Je trouve qu'ici, l'endroit est magnifique. On est au pied de la Tour Eiffel, au bout du Champ de Mars. Donc on ne peut pas rêver mieux comme endroit.
Kamel Yaya des éditions Gallimard, une maison qui avait boudé les dernières éditions du Salon du Livre, bien présente cette fois quasi à l'entrée du Grand Palais éphémère où se tient le festival. Un événement qui est aussi l'occasion pour les éditeurs, à l'heure où la lecture est en baisse, de rencontrer le public. Clémentine Chérifi, responsable éditoriale aux éditions de l'Aube.
Le fait que ce soit de nouveau dans le centre de Paris, c'est quand même un vrai plus. Ça permet aux gens de venir de façon un peu plus naturelle. Et je pense aussi que ça draine des gens qui ne venaient plus Porte de Versailles.
Et l'idée aussi pour les organisateurs est d'offrir un large éventail pour un public plus large. Marie-Madeleine Rigopoulos, directrice artistique.
Chacun peut trouver son bonheur dans un livre. On n'a pas besoin d'aimer la littérature pour s'intéresser au livre. On peut être bricoleur et s'intéresser au livre. On peut être sportif et trouver son bonheur dans un livre. On peut être cuisinier et trouver son bonheur dans un livre. C'est extrêmement important que tout le monde en ait conscience et c'est ce à quoi nous avons travaillé sur cette programmation. Faire en sorte qu'il y ait l'éventail le plus large possible de propositions, à la fois de littérature, de philosophie, d'essais, de littérature jeunesse, mais aussi il y a des sujets par exemple sur la gastronomie. On peut parler aussi de jardinage avec Alain Baraton, le grand jardinier de Versailles. Et à ce titre, chaque personne pourra trouver un sujet qui l'intéressera et une envie d'acheter un livre.
Le Festival du Livre de Paris, c'est donc une gigantesque librairie où l'on peut flâner, écouter un débat, participer à un atelier, mais c'est aussi le lieu des rencontres professionnelles. Nombre de libraires et distributeurs de l'étranger notamment ont fait le voyage pour signer des contrats. Kamel Yaya, directeur export pour Flammarion, Gallimard et Casterman.
Le groupe aujourd'hui, c'est près de 90 pays sur lesquels nous exportons, 2000 libraires dans le monde entier. Et c'est vrai que l'Afrique a une place particulière pour plusieurs raisons. Ce sont des marchés où il y a une véritable appétence pour le livre. Et je pense que l'ensemble des libraires aimeraient assouvir cette soif de lecture. Et on les accompagne depuis de nombreuses années pour ça.
L'Afrique, avec en chef de file le Sénégal et la Côte d'Ivoire, comme principaux importateurs de livres francophones sur le continent.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Les gorilles, bananes, l'archevêque, on était résistants.
C'était Axel Bauer avec cette chanson Radio Londres. Alors Axel Bauer, c'est bien entendu un titre dans les années 80, Cargo de nuit. Et sur cette chanson, donc Radio Londres, eh bien, il faut le savoir que son père, son papa, eh bien, c'était la voix de la résistance à la radio française, cette voix de Ici Londres. Eh bien, c'était le papa d'Axel Bauer. Il lui rend hommage dans cette chanson. Donc Radio Londres, 13h28, on fait une courte pause et on va parler des champions du luxe, les nouveaux rois du crocodile australien.
Les pieds dans la gadoue et loin de tout. Bienvenue à la ferme de Kouliba, dans le territoire du Nord. Ici, le supermarché le plus proche est à 220 km. Et pendant la saison des pluies, cette ferme rachetée par LVMH en 2017 n'est accessible qu'en hélicoptère. C'est aussi une période d'activité intense. Ces dernières semaines, près de 4000 œufs ont été prélevés dans la nature. Un travail difficile et dangereux, exercé seulement par une poignée de spécialistes. C'est par exemple le cas de Matt Wright. Il s'est lancé dans la chasse aux œufs de crocodile il y a une vingtaine d'années.
Ça peut être assez dangereux, surtout si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi on essaye de réduire les risques au minimum et de travailler dans les conditions les plus sûres possibles. On est confronté à plusieurs éléments, la météo, le terrain, l'eau, les crocodiles, les autres animaux. Et en plus de tout ça, vous pilotez un hélicoptère, donc il y a beaucoup de risques à prendre en considération.
C'est la particularité de cette profession en Australie. Pour l'exercer, il faut un hélicoptère afin d'accéder aux zones les plus reculées. Mais il faut aussi un collègue disposé à être harnaché sous cet hélicoptère pour ramasser les œufs sans même avoir à se poser.
Il a fallu qu'on obtienne l'autorisation de l'aviation civile. Et pour cela, nous avons travaillé étroitement avec eux ces 20 dernières années pour développer une technique qui est unique au monde et qui consiste à accrocher quelqu'un sous un hélico pour ramasser des œufs de crocodile.
Et pourtant, malgré l'incroyable dangerosité de cette profession, Matt assure que son équipe n'a jamais eu le moindre accident au travail.
Jamais un crocodile n'a mordu un seul des gars qui travaillent avec moi. On touche du bois.
Une fois arrivés à Kouliba, les œufs ramassés par Matt sont placés dans un incubateur. En ce moment, des bébés crocodiles naissent quasiment tous les jours. C'est Ben Hindle, le directeur des deux fermes que possède Louis Vuitton en Australie, qui assure la visite.
Ah, vous avez de la chance. Vous les voyez éclore ? Si vous rapprochez votre micro, vous les entendrez pousser un petit cri. Ils font ce bruit pour appeler leurs frères à sortir de leurs œufs, pour qu'ils naissent tous en même temps.
À peine sortis de leurs œufs, ces bébés crocodiles sont déjà très vivaces. Certains courent dans tous les sens, alors qu'ils sont encore attachés par leur cordon ombilical à l'œuf dont ils viennent de sortir.
Dès qu'ils éclosent, ils sont prêts à tuer. Celui-ci veut vous manger le doigt.
Annabelle Olson, qu'on vient d'entendre, est vétérinaire. Elle veille à la bonne santé des crocodiles élevés pour le compte de LVMH. En la matière, l'un des éléments les plus importants, c'est la température. Dans cet incubateur qui baigne dans la vapeur, elle est maintenue autour de 33 degrés et surveillée en permanence.
Ils sont très sensibles à la température et nous la maintenons toujours au même niveau afin d'obtenir des mâles, parce qu'ils grandissent plus vite. Leur peau n'est pas forcément de meilleure qualité, mais ils grandissent clairement plus vite.
Pour assurer une croissance rapide, ces bébés crocodiles sont ensuite transférés dans un couvoir où ils sont nourris 6 fois par semaine avec de la viande hachée de kangourou. Il y en a 45 dans l'un des grands bacs qui se trouve dans cette pièce. Ils sont nés il y a 15 jours et font déjà une vingtaine de centimètres de long. Mais Ben n'hésite pas à en attraper un à main nue pour examiner son ventre.
On voit que la marque du cordon ombilical a cicatrisé et que les écailles commencent à se former.
C'est précisément cette partie du corps qui est utilisée en maroquinerie. Et en la matière, il n'y a pas mieux que le crocodile marin australien, dont le nom latin est Porosus.
Le Porosus produit les plus petites écailles, le motif le plus féminin. Et dans l'industrie de la mode actuellement, si vous voulez faire des petits sacs très féminins dont le lustre attire le regard, c'est ce qu'il vous faut.
Vers l'âge de 9 mois, ils font alors environ 1 mètre d'envergure. Ils sont placés dans des enclos à l'air libre par groupe de 30 à 40. Étonnamment, ils sont tous les uns sur les autres. Le crocodile est pourtant d'ordinaire un animal solitaire. Mais c'est vrai seulement une fois qu'il atteint l'âge adulte, d'après Annabelle Olson. Ce n'est en revanche pas le cas quand ils sont encore jeunes et relativement fragiles.
Dans la nature, parce qu'il n'y a aucune forme d'investissement maternel, contrairement aux alligators, qui protègent leurs bébés pendant un certain temps après la naissance, on trouve assez souvent des petits rassemblés, car le fait d'être en nombre leur apporte une certaine sécurité. Dès qu'ils éclosent, ils sont à la merci de multiples prédateurs, y compris d'autres crocodiles. Donc ce qu'on voit là, c'est une réplique artificielle de ce qu'ils font à l'état naturel.
Après quelques mois, la quasi-totalité de ces crocodiles est envoyée à 2600 km de là, dans le Queensland, où se trouve l'autre ferme que possède LVMH en Australie. Comme ceux qui restent à Coolibah, ils sont alors séparés et mis dans des enclos individuels, dont les dimensions limitent très fortement leurs mouvements.
Pour un crocodile, plus grand, ça n'est pas forcément mieux. Ils ont besoin de murs, d'une structure grillagée pour se sentir en sécurité. Si on met le même crocodile dans un enclos deux fois plus grand, son niveau de stress va exploser simplement car son champ de vision sera trop dégagé.
Mais l'intérêt de ces enclos est également économique.
Les enclos individuels ont été adoptés par l'industrie au cours de la dernière décennie comme un moyen de permettre à la peau de guérir des morsures et griffures, mais aussi pour éviter aux animaux de se blesser les uns les autres.
Les crocodiles restent enfermés dans ces enclos pendant un an maximum avant d'être abattus avec un pistolet électrique vers l'âge de 3 ans. Leur peau est ensuite envoyée à Singapour dans une tannerie rachetée par LVMH en 2011 qui alimente en cuir toutes les marques du groupe. Mais si le secteur de la maroquinerie de luxe se porte à merveille, l'élevage d'animaux sauvages dans un but qui n'est même pas alimentaire est aussi de plus en plus critiqué. La semaine dernière, à l'appel de l'association PETA, trois jeunes femmes en bikini et arborant un masque de crocodile ont manifesté à l'extérieur du magasin Hermès de Sydney. L'une d'entre elles, Alicia Jones, nous explique pourquoi.
Pour chaque sac, ceinture ou chaussure fabriquée avec du cuir de crocodile, un animal très intelligent et sensible est placé en captivité, soumis à une vie horrible et à de multiples souffrances avant d'être tué. Et nous appelons tous les Australiens à boycotter les cuirs exotiques. Et nous appelons Hermès à écouter le nombre grandissant des consommateurs qui préfèrent désormais des alternatives véganes.
Au-delà de la question du bien-être animal, Emily Rice, une autre manifestante, pointe-t-elle un autre risque que fait courir l'élevage des crocodiles.
Les défenseurs de l'environnement affirment déjà depuis quelque temps que le commerce des cuirs exotiques pose un risque pandémique. Nous devons cesser d'exploiter les animaux car nous avons déjà eu la fièvre porcine et la grippe aviaire. Élever et exploiter les crocodiles de la même manière crée les mêmes problèmes. Le commerce international des cuirs exotiques à cause duquel les animaux sont déplacés d'un pays à l'autre, élevés dans un endroit et abattus dans un autre, toutes ces activités augmentent un risque qu'on n'a vraiment pas besoin de prendre. En particulier, si le but c'est de permettre à quelqu'un de s'acheter un nouveau sac à 24 000 $.
Sous la pression, certaines grandes marques, comme par exemple Chanel, ont renoncé ces dernières années à utiliser des cuirs exotiques. Mais pas Hermès, qui a fait l'acquisition en novembre dernier d'une nouvelle ferme dans le territoire du Nord, qui à terme deviendra la plus grande ferme de crocodiles d'Australie. Ça n'est pas le cas non plus pour LVMH, dont la position sur le sujet est expliquée par son directeur adjoint chargé de l'environnement, Alexandre Capelli.
Nous laissons libre nos marques et nos directeurs de création d'utiliser ces matériaux et nos clients de les acheter. Mais si nos marques décident d'utiliser ces matériaux, alors nous faisons tout pour mettre en place les meilleures pratiques possibles.
Ces dernières années, l'association PETA a révélé, vidéo à l'appui, des conditions d'élevage déplorables dans certaines fermes asiatiques ou africaines. LVMH a pour sa part travaillé 10 ans sur un processus de certification concernant les crocodiles et qui fixe un certain nombre d'objectifs en matière de conservation, de bien-être animal et de responsabilité sociale. Et c'est justement pour s'assurer que ces objectifs sont atteints que LVMH a décidé au cours de la dernière décennie d'intégrer l'ensemble de la chaîne de production d'après Marc Mauclair. Il dirige la tannerie Henglong à Singapour et c'est aussi lui qui a supervisé l'acquisition en 2013 et en 2017 des deux fermes de crocodiles que le groupe possède en Australie.
Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il se passe dans les fermes, changer les pratiques en matière d'élevage au quotidien, savoir comment l'éleveur se comporte avec les animaux, il faut devenir éleveur soi-même.
Cette activité aujourd'hui est très encadrée, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce que rappelle le zoologue Adam Britton, un spécialiste des crocodiles.
Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la demande pour le cuir de crocodile. C'est devenu un matériau à la mode. Ça a conduit à des décennies de chasse sans aucune régulation dans le nord de l'Australie. Puis, vers la fin des années 60, il est devenu très difficile de trouver des crocodiles, car la plupart d'entre eux, notamment les plus gros, avaient tous disparu.
Le crocodile devient alors une espèce protégée en Australie en 1971. Et à la surprise générale, en quelques années seulement, il pullule à nouveau.
Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à être attaqués par les crocodiles. La première a eu lieu en 1975. Ça a été une attaque mortelle. Et puis il y en a eu d'autres en 77, 78 et 79. Du coup, l'opinion publique s'est retournée et a commencé à demander pourquoi protège-t-on ces animaux qui ne sont plus menacés et qui tuent des gens.
La question qui se pose alors, c'est comment faire pour rendre supportable un animal qui fait peur. Une idée émerge, autoriser l'élevage des crocodiles pour permettre à la population locale d'en tirer un avantage économique.
Quelle que soit votre position morale sur le sujet, il faut reconnaître que c'est un outil de conservation extrêmement efficace. La population des crocodiles dans le nord de l'Australie est aujourd'hui très proche de ce qu'elle était dans les années 30 et 40, avant qu'on commence à les chasser. Et ce qui est sans doute plus important encore, bien la population locale supporte la présence des crocodiles. Pas parce qu'ils aiment les crocodiles, mais parce que les crocodiles créent de l'emploi et soutiennent une industrie.
But because crocodiles give jobs to local people, they support an industry.
C'est d'autant plus vrai dans le territoire du Nord, où les autorités encouragent le prélèvement des œufs en pleine nature plutôt que l'élevage en circuit fermé. Les propriétaires des terres sur lesquelles ces œufs sont ramassés, des communautés aborigènes dans 70% des cas, sont rémunérés et ainsi incités non seulement à protéger les crocodiles, mais également leur habitat. Dans le cas de la ferme de Kouliba, LVMH reverse un peu plus $1 million par an aux propriétaires traditionnels des terres sur lesquelles ces œufs sont prélevés. À l'échelle du territoire du Nord, l'industrie du crocodile rapporte plus de $100 million par an et plusieurs dizaines de milliards à l'échelle mondiale. D'ailleurs, malgré les polémiques, le secteur a plus que jamais le vent en poupe. Malgré un net repli en 2020 provoqué par la crise du coronavirus, le marché mondial du luxe devrait s'accroître de 50% d'ici à 2025.
Les arguments et les baisers, je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver.
Et c'était un duo entre Julien Doré et Eddy De Pretto, et cette chanson L'Arme Fatale qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois. Eddy De Pretto qui sera d'ailleurs en concert, toute une série de concerts à Paris, je crois. Ça s'annonce plutôt pas mal. Il est 13h45 tout juste. On fait une courte pause et on parle de théâtre français à Adélaïde avec Panache tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Eh bien, j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir Andrew McKenzie sur les ondes de SBS French. Bonjour, Andrew.
Bonjour Jean-Noël, bonjour tout le monde.
Et je rappelle que vous êtes du Panache Adelaide French Theatre et que vous allez présenter un spectacle prochainement, Muse en noir, consacré à la mémoire de Juliette Gréco.
Oui, c'est ça. Oui, nous avons eu l'idée parce que dans la première partie de l'année, nous aimons toujours, si nous pouvons, présenter un spectacle de cabaret et nous faisons une grande pièce proprement dite vers la fin de l'année. Ça, c'est notre programme habituel. Donc, on a décidé cette fois-ci, pourquoi pas, de consacrer une soirée à Juliette Gréco et surtout aux chansons qu'elle chantait et aussi aux souvenirs de tous les artistes, de tous les poètes, compositeurs avec qui elle a travaillé et pour qui elle était, comme on disait en quelque sorte, la muse de Saint-Germain-des-Prés. Voilà.
Parlez-nous un petit peu de la mise en scène de ce spectacle.
Donc c'est assez simple. Nous avons nous présentons par des présentatrices, si vous voulez, des acteurs qui présentent la vie de Gréco et surtout ses rapports avec les poètes et les musiciens qu'elle chantait, les compositeurs qu'elle chantait. Et nous supportons cela avec un panorama de diapositives qui rappelle les circonstances de sa vie, les cafés de Saint-Germain-des-Prés après la guerre, les personnes comme Sartre, Prévert, Brassens, Brel, etc., avec qui elle a travaillé. Et puis, nous passons de cette présentation à une sorte d'illustration pratique du sujet, c'est-à-dire que nous présentons beaucoup de ses chansons. Et ça, pour nous, l'essentiel de la soirée, c'est les superbes chansons qu'elle chantait, parce que elle en a chanté de très belles. Ouais.
Qui va jouer le rôle de Juliette Gréco?
Justement, nous avons bien regardé parmi nos artistes, il n'y avait personne. Nous ne présentons pas Gréco elle-même. Nous parlons d'elle, nous la présentons en photo, nous chantons ses chansons, mais nous n'avons personne vraiment dans notre groupe qui serait capable de jouer Gréco, qui avait, vous savez certainement, un style tout à fait à elle. Hein, quand elle chantait et dans sa vie aussi. Donc on parle d'elle, on présente ses chansons et on rend hommage aux chansons, mais nous les chantons à notre façon et pas à sa façon. Parce que nous avons un groupe de chanteurs, nous avons une petite chorale, si vous voulez, six chanteurs, je crois. Et nous prenons à tout le rôle le relais dans ces chansons-là. Oui, voilà.
Parlez-nous un petit peu du répertoire que vous allez présenter.
Oui. Donc Gréco avait un répertoire extrêmement riche, et d'autant qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, et qu'elle a donné son dernier concert à l'âge de 88 ans, figurez-vous.
Oui.
C'est sûr, on peut le voir sur YouTube, un extrait de ce concert. Elle n'avait plus à ce moment-là la voix qu'elle avait dans sa jeunesse, évidemment, mais elle était toujours une artiste, même à la fin. Donc, nous commençons par les premières chansons qu'elle a chantées. C'était l'idée de Sartre qu'elle devienne chanteuse. Et il l'a poussé un petit peu dans ce sens-là. Et elle a chanté, c'est pas si vous connaissez les chansons, Si tu t'imagines de Raymond Queneau.
Oui.
Elle a chanté même un poème de Sartre dans la rue des Blancs-Manteaux, qu'il a mis dans sa pièce Huis Clos. Et elle a chanté aussi un poème de Jules Laforgue, L'éternel féminin. Et toutes ces chansons ont été mises en musique par Joseph Cosma, qui était le grand génie musical, oui, qui a travaillé beaucoup avec Prévert. Voilà. Et donc, ça, on commence par ces chansons-là, puis on parle, au fur et à mesure que la soirée se développe, on parle de tous les gens avec qui elle a travaillé, Prévert lui-même. Et donc on prend une chanson de Prévert qu'il n'a pas écrit pour elle, mais il a dit après qu'il aurait pu l'écrire pour elle s'il l'avait connu à l'époque, et c'était Je suis comme je suis.
Oui.
Et en fait son autobiographie, le titre est un vers de cette chanson là Je suis faite comme ça. Et c'est le titre du livre qu'elle a écrit sur elle-même. Et donc, on fait cette chanson-là, on passe à Boris Vian, avec qui elle est très amie, et on chante Le Déserteur, on passe à Brassens, et on chante les chansons pour l'Auvergnat, qu'il a donné personnellement à Gréco, il lui en a fait cadeau. Et elle a chanté souvent dans ses concerts. On passe à qui d'après à Léo Ferré, bien sûr,
ouais,
avec qui elle a beaucoup travaillé.
Jolie Môme.
Il a écrit une chanson pour elle, Jolie Môme, que tout le monde connaît, j'imagine. On pense à aux feuilles mortes, on chante les feuilles mortes parce que c'est une chanson qui est chantée souvent. On passe puis à Gainsbourg. Elle a une longue liaison des rapports avec Gainsbourg. Et il lui a écrit la javanaise, qui est très très bien connue.
Ouais.
Et puis elle s'est liée, elle a épousé en effet le pianiste de Jacques Brel, Gérard Joannest. Et plus tard dans sa vie, il lui a écrit de très belles chansons. Mon fils chante, il n'y a plus d'après, ça c'est Guy Béat. Non monsieur, je n'ai pas 20 ans. Une très belle chanson, qui est chantée quand elle n'avait plus 20 ans. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de chansons.
Vous allez pouvoir recréer une ambiance des cafés, des cabarets des années 50.
Exactement, c'est ce qu'on essaie de recréer avec ses chansons, avec nos images, avec notre petit commentaire sur sa vie, etc. Ouais.
Quel impact a eu Juliette Gréco sur vous, Andrew?
Je la trouve une femme très intéressante. Elle est plutôt mal connue dans le monde anglophone. Quand je dis aux gens, on va faire un concert sur un cabaret sur Juliette Gréco, sur qui ils ne la connaissent pas. Et c'est vrai que même en France, elle ne chantait pas beaucoup dans les grandes salles.
Oui.
Elle restait fidèle à la rive gauche, à Saint-Germain-des-Prés, aux plus petites salles. Et puis, elle a beaucoup voyagé. Elle a exporté, si vous voulez, la culture française vers d'autres pays. Elle a beaucoup voyagé pour faire des tours de chant, plus ou moins pour représenter la France. Et elle a été beaucoup décorée par le gouvernement français, je peux vous assurer.
Ouais,
on lui a donné beaucoup de médailles et légions d'honneur, etc. Pour cette partie de son œuvre, je crois. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup sa voix. Elle a dit au début qu'elle ne savait pas chanter, mais je crois qu'elle a certainement bien appris son métier. Et puis, j'aime beaucoup les chansons qu'elle chantait, parce que je crois qu'à cette époque-là, c'était un peu l'âge d'or de la chanson française. Et il y avait beaucoup de très belles chansons qu'on écrivait, et il est arrivé qu'elle en chantait pas mal.
Parlez-nous du théâtre où aura lieu le spectacle, c'est
oui,
en mai prochain.
Nous présentons nos spectacles de cabaret toujours au même endroit. C'est une salle de cabaret à Adélaïde qui s'appelle Nexus Arts, une belle petite salle de cabaret qui on peut avoir peut-être 100-120 personnes là. Tous très proches de la scène. C'est une salle qui est plus large qu'elle est profonde, et donc le public est très proche de vous quand vous êtes sur scène. Et à la barre derrière, on peut prendre des verres, on met des tables, des petites bougies sur la table. C'est une belle atmosphère de cabaret. Et donc nous chantons toujours là. L'acoustique est pas mal du tout. Donc c'est là que nous allons faire nos trois spectacles les 12, 13, 14 mai.
Andrew McKenzie, merci d'être intervenu sur les ondes de SBS French et bonne continuation avec Panache Adelaide French Theatre.
Oui, nous continuons malgré la Covid et tout. Bien, merci Jean-Noël, merci à tout le monde.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
Benjamin Biolay dans la Mercobenz, une chanson qui est tout particulière pour moi, et ceux qui savent, eh bien, connaissent l'histoire. Voilà, c'est une chanson importante pour moi. Il est 13h59, on fait un retour sur l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité, eh bien, le Premier ministre Scott Morrison qui répond aux affirmations selon lesquelles eh bien, la Chine aurait choisi son moment pour annoncer le nouvel accord avec les îles Salomon en termes d'ingérence électorale, et la situation en Ukraine, les Russes qui reconnaissent avoir bombardé la ville de Kiev.
Voilà, c'est la fin de notre programme pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie donc de Celle, cette chanson pour finir ce programme. Prochain rendez-vous en français, c'est demain à 13h avec Jean-Noël Lucas. Et toute la semaine également, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.